Je vous présente maintenant un autre collègue du Collège de France, Thomas Lecuy, qui est titulaire de la chaire Dynamique du vivant et qui va franchir les frontières, non seulement spatiales, mais aussi disciplinaires. Une Europe pour la biologie, science par-delà les frontières disciplinaires. Tel est son exposé.
Voilà, merci de convoquer la biologie à ses réflexions sur l'Europe et de me faire l'instrument d'une présentation sur la vie qui sera, vous allez le voir, résolument optimiste. C'est un hasard qui nous réunit, mais là où il y a de la vie, il y a de l'espérance, et je suis là pour porter ce message. Alors effectivement, la biologie a une place à part dans les sciences, et à mon avis d'une façon assez intéressante, au sens où, comme on le verra plus tard, elle s'est autonomisée comme discipline par rapport aux autres sciences, relativement tardivement. Et en un sens, la biologie se situe entre les autres sciences, et d'une façon qui rappelle ce que l'on disait ce matin, elle accueille et assimile d'autres sciences pour traiter de son objet singulier qui est effectivement la vie. Cette forme de la matière physique qui est tout à fait singulière et qui pour l'instant, dans ce que l'on connaît, n'a pas d'équivalent dans l'univers que Françoise nous a rappelé. Elle existe sans doute ailleurs, mais nous ne la connaissons pas encore. Donc parlons de la vie que nous voyons sur Terre. Et en suivant le principe selon lequel parler du futur oblige à d'abord parler de l'histoire, je vais donc faire une rapide incursion dans l'histoire de la biologie et en quoi elle a bénéficié dans ses essors d'une Europe. Pour commencer, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant que la biologie ne s'appelle même biologie, on parlait en fait de physique de la nature. Et la matière vivante était traitée d'une façon très interdisciplinaire, on dirait aujourd'hui, à l'époque c'était simplement le monde de la physique. Et pour simplement partir du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, la biologie était, comme d'autres sciences, comme d'autres disciplines, en fait traitée dans les sociétés savantes, privées pour certaines, à Paris il y avait la société de Mersenne, et qui plus tard s'est transformée dans l'Académie des sciences, et à vrai dire en Europe, et on voit ici sur la carte que j'ai annotée, on voit les principales académies qui, dans le milieu du XVIIe siècle, ont émergé et qui réunissaient les plus grands scientifiques qui partageaient entre eux, leurs connaissances, leurs découvertes. Donc, en fait, on n'a pas inventé véritablement au XXe siècle et encore moins au XXIe siècle les interactions scientifiques. Le savoir était partagé d'une façon tout à fait libre à l'heure où l'on voyageait à dos de cheval pour aller de ville en ville. Des étrangers sont même élus dans les académies. Je prends l'exemple de Christian Huygens, qui effectivement était l'un des premiers membres de l'Académie des sciences en France, Cassini-Leibniz. Leibniz y écrivait même en français la plupart de ses écrits. Donc on était véritablement dans un terreau culturel international, européen en ce sens, et qui, dans lequel le savoir était partagé. Dans le thème de la diffusion européenne des découvertes, j'aimerais mentionner en particulier, se rapprochant des sciences de la vie en particulier, de Linné, donc au XVIIIe siècle, qui était un correspondant de Jussieu, qui a été élu à l'Académie des sciences en 1762. Et bon, Linné est très connu, même s'il incarne une vision de la biologie qui a évolué. Néanmoins, à l'époque, c'était un personnage très bien connu en Europe, en France en particulier. Ici, on voit ici une présentation d'un de ses livres importants sur les plantes, qui en 1804 est même édité en français. Les expositions européennes des sciences étaient nombreuses. J'en cite une, celle de Maupertuis, qui a travaillé beaucoup sur la matière vivante, mais qui, comme vous le savez, a aussi diffusé et confirmé l'œuvre de Newton en faisant son expédition connue vers la Laponie et au Pérou. Les grands débats sur la nature de la matière vivante ont été très vifs en Europe, et pour faire un raccourci extrêmement court, en partant en fait déjà en Europe, Galilée et Descartes incarnaient une vision très mécaniciste du vivant, dans laquelle la matière vivante était passive, mise en mouvement par un flux d'énergie venant de l'extérieur. Et déjà en Allemagne, avec Stahl et Leibniz, on a une vision plus vitaliste, avec des différences notoires. Leibniz en particulier, qui incarne une vision tout à fait nouvelle du vivant, dans laquelle la dynamique est intrinsèque, même si elle est immatérielle encore. Et au XVIIIe siècle, avec Buffon, Diderot, Maupertuis, ce principe intrinsèque de la dynamique en fait, est assimilé d'une façon matérialiste et qui en fait, définit en fait, le point de départ d'une pensée moderne de la biologie. Donc on voit tous ces débats très vifs au sein de l'Europe ont pu exister grâce aux différences nationales et à la possibilité d'échanger par les académies et autres moyens mis à disposition des chercheurs, des savants, pour partager leur savoir. Donc ça, c'est le premier point historique que je voulais souligner. Le second est celui des partages même des méthodes expérimentales. On pourrait citer en particulier l'exemple de la microscopie, dont je reparlerai plus tard, parce que connaître le vivant nécessite d'abord de l'observer. Donc, une personne qui n'était pas véritablement un savant, mais simplement quelqu'un qui faisait de la science comme un hobby, Leeuwenhoek, à Delft, avait fait le premier microscope qui ressemble à cette chose, assez rudimentaire, mais qui, astucieusement monté, lui a permis d'observer en fait les premières cellules, et en particulier les premiers mouvements des cellules. Il décrit ici, je ne l'ai pas traduit, en fait, Leeuwenhoek était quelqu'un qui écrivait simplement hollandais, connaissait la Royal Society, et aidé par Christian Huygens, a apporté des lettres écrites en hollandais qui ont été traduites en anglais ou en latin pour permettre à la Royal Society d'analyser ses travaux. Et donc on a ici une traduction d'une salette dans laquelle il décrit, émerveillé, la première observation de la vie de cellules. Et effectivement, à la Royal Society, Robert Hooke a pris connaissance de ses travaux. Il a été mandaté par la Royal Society pour simplement étudier ses travaux, en voir leur validité. Et maintenant, on reconnaît souvent à Robert Hooke, dans son livre Micrographia, publié au milieu du XVIIe siècle, pour avoir inventé le terme de cellule, même s'il n'est pas le premier à les avoir observées et décrites. Et en fait, Robert Hooke, qui était lui un très grand savant, physicien, a contribué à valider ses travaux, à les faire connaître, et ainsi à diffuser cette connaissance nouvelle venue d'une nouvelle expérimentation. Et d'ailleurs, Robert Hooke lui-même reconnaissait que même si lui-même avait inventé un microscope de qualité, celui de Leeuwenhoek était plus adapté pour l'observer finement les structures cellulaires. Donc voilà ici une bonne illustration d'un partage de connaissances expérimentales ou de méthodes expérimentales mises à disposition pour une caractérisation ici du vivant. Poursuivons notre enquête historique. La naissance de la biologie comme discipline autonome se situe vraiment au début du XIXe siècle, à peu près en 1804, lorsque deux personnes, Lamarck en France et Treviranus en Allemagne, pour des raisons tout à fait différentes, en viennent à, d'une part, utiliser le terme biologie. Lamarck, dans son traité philosophie zoologique, il aurait dû appeler dire biologique, mais qu'il appelait zoologique, et par ailleurs Treviranus, dans ce traité important. En même temps, ces deux savants ont aussi été à l'origine de la pensée nouvelle du vivant comme le transformisme. Ce transformisme était en fait l'idée d'une transmutation des formes biologiques et que Lamarck a théorisé d'une façon radicale et qui ont inspiré, comme on le sait, les travaux de Darwin plus tard en Angleterre, qui a maintenant apporté une explication tout à fait nouvelle, non finaliste, au mécanisme du transformisme. Et pour finir mon enquête historique, j'aimerais m'arrêter un instant sur l'exemple tout à fait exemplaire de Alexander von Humboldt, le plus européen, dis-je, des savants et des biologistes. À vrai dire, il s'agit d'un savant tout à fait hors cadre, puisqu'il était, comme on va le voir, touchait un peu toutes les disciplines. Il est né et mort en Allemagne. Il parcourt les Amériques avec le botaniste français Aimé Bonpland. Il s'installe à Paris de 1804 à 1827. Il parlait couramment français, participer dans les salons de sciences pour expliquer et faire part de ses nouvelles découvertes, mais également donner des conférences grand public, comme on en voit aujourd'hui, presque, on imagine, je ne sais pas s'il est venu au Collège de France, mais il aurait pu, et tout le monde, en fait, s'arrachait des places pour écouter le grand et absolument magnifique Alexander von Humboldt, qui était une véritable star médiatique dès cette époque. Il est effectivement biologiste, certainement, mais également géologue, physicien, il s'intéressait au magnétisme, géographe, climatologue, ethnographe, une personne tout à fait remarquable, et qui mesure en premier l'impact du reste de l'homme sur l'environnement lorsqu'il observe les écosystèmes abîmés en Amérique du Sud. Et en fait, il est évidemment correspondant à ce puits associé étranger de l'Académie des sciences. Donc on a ici en fait l'exemple d'un personnage, il y en avait d'autres, mais lui est particulièrement remarquable, qui est vraiment un scientifique européen dans toute son excellence, partageant le savoir, voyageant, et je pense que c'est une figure tout à fait magnifique à retenir aujourd'hui. Et la biologie, finalement, pour en arriver à comprendre les développements contemporains et l'avenir, il faut voir que finalement, les grandes révolutions de la biologie, finalement, le tournant majeur de la biologie, c'est le XXe siècle. Et pour faire court, on pourrait dire que la biologie, terme défini en 1804, a vraiment connu son essor, disons, au XXe siècle, parce que c'est le siècle dans lequel la biologie a commencé à pouvoir être expliquée d'un point de vue chimique. C'est le siècle de l'invention ou de la découverte chimique des bases du vivant. Et je résume ici les grandes découvertes, faites toutes en Europe, à vrai dire. La première, c'est la théorie cellulaire, qui a trois figures importantes de ce qu'on appelait à l'époque la Prusse, Schwann, Virchow et Fleming, qui définissent tous les termes même de la biologie, de l'histologie contemporaine. Puis la théorie chromosomique de l'hérédité par Sutton et Bovary. En gras, en fait, on voit ici les Européens. Théodore Bovary, qui était en allemand, qui a découvert qu'en fait, que les chromosomes étaient les véhicules moléculaires de l'hérédité nécessaire à la formation d'un organisme, les oursins dans son cas. Puis, très grande révolution majeure au milieu du XXe siècle, la découverte de la structure de l'ADN par Watson, Crick. J'ajoute aussi Wilkins et évidemment Rosalind Franklin, parfois oubliés. Et puis le dogme central de la biologie moléculaire, qui est en fait l'œuvre de beaucoup de savants, mais que Crick, Francis Crick, anglais, a théorisé et formalisé d'une façon très concise entre les années 1957 et 1970, et selon lequel l'information, en fait, stockée dans l'ADN, est traduite en ARN, puis en protéines, et en fait, même s'il y a certaines interactions à ce niveau-là, l'information du génotype va vers le phénotype, mais pas en sens inverse, donc ce qu'on appelle le dogme central de la biologie moléculaire. Et le troisième concept absolument fondamental de la biologie est celui, en fait, l'œuvre de Jacob et Monod, qui en 1961 publie un article central qui explique comment cette information, caractérisée comme on l'a vu, fonctionne comme un programme capable de se modifier, de réguler des opérations, de sentir l'environnement, de s'adapter à l'environnement, bref, de faire qu'une vie, qu'une cellule est vivante, est capable de s'auto-déterminer en un sens, on dirait aujourd'hui de s'auto-organiser. Donc selon les règles en fait, de cybernétique, si on utilise un thème d'une autre discipline. Et donc véritablement une révolution conceptuelle au XXe siècle qui vient de chercheurs situés en gros en quelques décennies au cœur de l'Europe. Le grand enjeu du XXIe siècle est en fait, résulte en fait de ces découvertes. Maintenant qu'on a décomposé la biologie dans ses entités chimiques, protéines, ARN, génome, etc., il s'agit de reconstruire, c'est-à-dire de passer du génotype au phénotype. Comment le faire étant donné la complexité des systèmes, c'est-à-dire leur organisation multi-échelle, du nanomètre pour les molécules jusqu'au mètre pour les organismes, leur dynamique intrinsèque incessante, leur hétérogénéité, la non-linéarité des structures qui les animent et les grandes dimensions qui y sont associées. Donc, gros, tous les gros problèmes de la biologie sont réunis. Et aujourd'hui, on peut dire que le XXIe siècle et l'Europe impliquée dans ces investigations doit en fait s'organiser pour aborder cette complexité d'une façon nouvelle. Et ici, j'aime à citer les propos anciens de Poincaré qui dit que finalement, le savant doit ordonner. Voilà un peu le résultat de la biologie du XXe siècle, c'est-à-dire on a décomposé la biologie dans ses composants, il s'agit maintenant de la réorganiser pour comprendre comment la vie fonctionne. Et à partir de là, il s'agit simplement d'intégrer différentes disciplines. La nouveauté, finalement, et en quoi finalement on revient à ce qu'était la biologie au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est qu'elle redevient interdisciplinaire, après s'être autonomisée. Il s'agit de conjoindre des approches expérimentales, c'est-à-dire observer, perturber, analyser, des théories physiques, qui sont en fait le seul langage fondamental capable d'expliquer le fonctionnement de la biologie, et utiliser pour cela des modélisations mathématiques et computationnelles, des simulations numériques, étant donné la complexité des systèmes. Bref, il s'agit de décloisonner les disciplines pour intégrer l'information en un tout qui fait sens. Donc, au terme de ce parcours historique, j'aimerais maintenant dresser à grands coups de pinceau évidemment, la structuration de la biologie dans la seconde moitié du XXe siècle et qui nous permet de voir aujourd'hui comment cette Europe de la biologie fonctionne, quelles sont les grandes découvertes qui y sont associées. Le grand tournant se situe, comme pour la physique, et d'ailleurs influencé par la physique. Dans les années 50, en physique, on a vu que le CERN a permis de structurer la physique. En biologie, il s'agit dans les années 60. Et plus précisément, on peut voir trois grandes dates. J'y reviendrai un peu plus en détail maintenant. En 1964, l'Organisation européenne de la biologie moléculaire. Pourquoi biologie moléculaire ? Parce que, d'après ce que je vous ai dit, on voit bien que la biologie moléculaire était l'invention du XXIe siècle. C'était vraiment le substrat peut-être de lequel expliquer la biologie. Donc on crée une organisation européenne de la biologie moléculaire. Quelques années plus tard, une structure politique qui regroupe des États membres pour structurer et financer la recherche. Et également un laboratoire européen de biologie moléculaire, le MBL, dont éditeur est aujourd'hui la directrice. Alors l'EMBO, en quelques mots, est parti d'une réunion qui a réuni deux physiciens d'ailleurs, biophysiciens, qui avaient eu le prix Nobel en 1961 pour la découverte de la structure des premières protéines, myoglobine et hémoglobine, et qui réunis ont eu l'idée, avec d'autres, d'organiser cette société, cette organisation de la biologie moléculaire. La mission était de promouvoir l'excellence de la recherche sur les sciences de la vie en Europe, et de permettre notamment la publication de revues et l'octroi de bourses, de financer la recherche, d'animer cette communauté. Et aussi, le projet était de fonder un laboratoire européen de biologie moléculaire dans les années qui suivraient. Aujourd'hui, l'EMBO compte à peu près 1800 membres, nous y reviendrons, et donc correspond à cette communauté de recherche d'excellence qui est au cœur de l'Europe. Quelques années plus tard, donc, une organisation intergouvernementale, le MBC, regroupe des États membres qui vont financer la recherche en Union européenne par l'intermédiaire de l'EMBO et de l'EMBL en particulier. Et donc, troisième grande organisation créée dans ces années-là, en 1974, le laboratoire européen de biologie moléculaire, l'EMBL, est créé. Ses missions majeures sont évidemment de soutenir la recherche fondamentale dans ce cas-là de plus excellent, de créer des infrastructures et des services, nous y reviendrons plus tard, de permettre des formations avancées de recherche pour les étudiants, les chercheurs plus jeunes, de développer des transferts de technologies en industrie à partir de la recherche fondamentale qui viendrait de l'Europe, et d'intégrer la recherche au niveau européen dans une communauté dynamique. Donc, quelques mots à propos de l'EMBO. Donc, l'EMBO contient à peu près 1800 membres, qui sont des chercheurs qui sont en fait sélectionnés sur la base de leur excellence. L'EMBO finance bourses de recherche pour les gens qui ont déjà fait une thèse, des financements divers. Elle soutient également les jeunes chercheurs dans la création de leurs équipes lorsqu'ils s'installent dans les différents pays de l'Union européenne. Nous reviendrons sur la carte plus tard. Et donc, on voit ici un soutien à différents âges de la carrière. Moi, j'ai été, par exemple, financé à ce stade-là, et j'ai aussi été soutenu à ce stade-ci. Donc, je suis un exemple banal d'un chercheur français qui a été soutenu par l'Europe à différents moments de leur carrière. L'EMBO également soutient des femmes et des hommes exemplaires dans la recherche, les donnant l'exemple par l'innovation de leur recherche. Et puis, autre élément absolument central, l'EMBO soutient, par l'intermédiaire de cours, de formations avancées et de colloques, sur des thématiques extrêmement diverses, tout le temps en changement, une communauté européenne de recherche. Également, un soutien en fait, à la gouvernance de la recherche à une échelle plus petite pour les équipes. Donc, vraiment une structure très importante. L'autre volet important de l'EMBO, c'est la publication scientifique, qui, en gros, au fil des années, a diversifié ses thématiques et surtout évolué et a été extrêmement actif pour promouvoir un accès d'abord partiel, puis total, en libre accès des publications scientifiques, avec un processus maintenant transparent. J'aimerais maintenant passer le reste de mon temps à vous parler de l'EMBL, qui est une des œuvres les plus magnifiques, à mon avis, au sein de l'Europe, de l'organisation de la recherche à son plus haut niveau. Donc on voit ici un parcours historique extrêmement rapide. Cet parcours historique permet de montrer, après sa fondation, des recherches qui, partant de la biologie structurale, nécessitant des équipements extrêmement onéreux que les États individuels n'arrivaient pas à financer et qui se sont mutualisés pour organiser, pour financer ces équipements très importants. Donc ici, on a, après sa création, le dépôt des premières et propres moyens en fait, de déposer les séquences d'ADN qui étaient produites dans les années 80 et qui vont exploser exponentiellement dans les années suivantes. Le lancement du programme de génome humain, les premières séquences aboutissant vraiment dans les années 2000 pour les différents organismes. Dans les années 90, le travail antécédent de ces deux personnes, Yannine Husslein-Wollaert et Eric Wishaus, qui étaient chercheurs dans les années fin 70, début 80 à l'EMBL, qui ont été couronnés par le prix Nobel de physiologie et médecine en 1995 pour la découverte, en gros, des principes de régulation génétique à l'œuvre dans le développement des organismes. Finalement, en transposant de façon plus large les principes de Jacob et Monod pour expliquer la formation des organismes. Donc voilà un prix Nobel absolument fondateur. Puis après, le lancement de moyens en fait, de stockage de quantités de séquences d'ADN extrêmement importantes, d'annotations, la création d'autres parties de l'EMBL, je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là, sur la partie bioinformatique de l'EMBL, et puis le lancement en 2015 d'un programme international visant à caractériser les écosystèmes, puis d'autres données extrêmement importantes sur la reconnaissance par un prix Nobel de la cryo-microscopie électronique qui s'est développée beaucoup à l'EMBL, nécessitant des infrastructures nouvelles. Et puis maintenant, une évolution vers une recherche de plus en plus tournée vers l'intelligence artificielle, comme on le verra, et puis l'étude des écosystèmes. J'aimerais m'arrêter ici deux secondes sur la carte. Vous voyez que c'est une carte qui est plus large que l'Europe politique. On y associe, comme pour la physique, Israël, des États plus au nord. En Europe, il y a donc 27 États membres qui forment cette communauté extrêmement riche et diverse. Et on voit surtout ici ce qu'on appelle les différents sites, les 6 sites de recherche. Le site fondateur Heidelberg en Allemagne, mais également en biologie structurale Hambourg et Grenoble qui nécessitent des infrastructures européennes dont il a été question plus tôt. Et puis en bioinformatique, le développement de la bioinformatique en Angleterre, à côté de Cambridge, de l'EMBL, et puis également d'autres sites à Rome et Barcelone sur d'autres aspects de la biologie. Donc finalement, à partir de l'Allemagne, différents sites se sont développés autour. Les missions de l'EMEL tournent évidemment autour de la recherche, mais également sur la mise en place de services qui sont essentiels à la communauté scientifique. Nous y reviendrons plus tard. Des formations avancées pour les chercheurs, à tous les niveaux, des étudiants jusqu'aux post-docs et aux chercheurs plus avancés. Des phénomènes d'innovation et de transfert qui permettent que la recherche fondamentale soit tournée vers les applications possibles. Et en fait, un phénomène d'intégration de la recherche au niveau européen. Si l'on regarde rapidement les impacts historiques, on voit par exemple le développement à l'EMBL des méthodes nouvelles par Mathias Mann de la protéomique, qui permet de caractériser les protéines d'une cellule à très grande échelle. Le prix Nobel qui a reconnu la recherche sur la caractérisation de structures moléculaires par cryo-microscopie électronique, et puis le développement de nouvelles microscopies dynamiques en trois dimensions grâce aux travaux de Ernst Elzer, qui avait son laboratoire à l'EMBL. Moi, j'ai vu à l'œuvre les inventions, le développement de ces équipements dans les années 90 lorsque je faisais ma thèse. Cela montre absolument le dynamisme de cette institution. Je passe sur cette diapositive parce que je pense qu'il faut maintenant que je conclue. Mais trois grands exemples vont être rapidement esquissés. Le premier, c'est la cartographie des écosystèmes marins. Une mission venue de l'UMBL par un biologiste cellulaire, Eric Carsanti, associé à d'autres structures en France depuis, ont lancé une expédition absolument nouvelle, comme aller sur la Lune. Il s'agissait de connaître en fait les planctons et tous les autres organismes de l'océan. En fait, une quantité absolument faramineuse de séquences de gènes ont été produites. Des jeux de données gigantesques, de centaines de millions de nouveaux gènes ont été obtenus. Et à partir de là, on a maintenant des nouveaux moyens, finalement, de connaître l'état d'un écosystème en corrélant des paramètres environnementaux et des paramètres génétiques et d'ainsi caractériser l'évolution de notre planète. De nombreuses publications en sont issues, je passe dessus, mais je pense que voilà vraiment un exemple de recherche nouvelle, tout à fait nouvelle, qui est venue en fait d'un chercheur de l'EMBL avec le soutien de l'EMBL et des ressources notamment en bioinformatique. On a aussi un phénomène tout à fait récent et qui montre une bonne illustration de l'interfécondité entre différentes disciplines. La recherche en intelligence artificielle, donc Demis Hassabis avait développé dans son entreprise DeepMind un nouveau AlphaFold qui a permis en peu de temps de résoudre la structure d'une vingtaine de milliers de protéines pour l'homme et de plusieurs centaines de milliers de protéines dans d'autres organismes, et qui permet maintenant de prédire la structure sans avoir besoin de la résoudre. Autrefois, il fallait plusieurs années pour qu'un étudiant ou un postdoc puisse obtenir la structure d'une protéine. Maintenant, on peut produire, par prédiction, par intelligence artificielle, plusieurs centaines de milliers de structures protéiques. Aujourd'hui, toutes ces informations sont mises gratuitement à disposition du grand public, du public scientifique, grâce à un partenariat explicite entre DeepMind et l'EMBL. L'EMBL, par ses ressources bioinformatiques à l'IBI, a participé à la publication fondatrice qui a été publiée donc il y a quelques semaines et qui met à disposition de la communauté scientifique pour la suite toutes les structures qui sont aujourd'hui existantes et qui seront produites dans les mois et les années qui viennent. Donc on a ici un excellent exemple d'interaction entre une activité privée d'une entreprise et d'un service européen qui met à disposition gratuitement d'une communauté les produits de sa recherche. Et pour finir, et j'en aurai fini, pendant la crise de la pandémie, l'EMBL, par ses ressources immenses, a fait de nombreux efforts pour structurer en fait une communauté, en organisant toute une série d'interactions avec la communauté scientifique, l'enregistrement de données diverses, des cristaux de protéines, etc., et en organisant des conférences en ligne. Et finalement, pour la pandémie, l'EMBL a ainsi structuré une communauté, a permis d'échanger de l'information et d'ainsi permettre d'avancer la recherche d'une façon significative. Donc pour conclure, on peut dire que les enjeux de la recherche en biologie sont multiples. Il s'agit de mettre en place une communauté interdisciplinaire fondée sur la collaboration entre les sciences expérimentales et théoriques, de développer des technologies très innovantes mises à disposition de la société en des temps records lorsque les besoins se font jour, de partager des ressources pour une meilleure coordination des efforts de la recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que seule la coordination structurelle de la recherche biologique à l'échelle de l'Europe permettra de répondre aux défis d'innovation qui nous attendent. Je vous ai fait un portrait de la biologie du XXIe siècle montrant ses enjeux considérables et la biologie en interaction avec les autres sciences. Et la structuration européenne dont je vous ai dressé un rapide portrait permettra, je pense, avec optimisme, de répondre à ces grands défis. Voilà, je vous remercie.